Bonsoir. Le Premier ministre Augustin Matata Ponyo a lancé le week-end dernier à Kinshasa la deuxième phase des travaux d'implantation de la fibre optique à travers la RDC. Évaluée à 200 millions de dollars, cette phase consiste à introduire la fibre optique de Kinshasa à Kasumbalesa dans le Katanga, en passant par les provinces du Bandundu et les deux Kasaï. Si en RDC le processus est encore au niveau de l'installation du réseau national de la fibre optique, la connexion du pays au réseau mondial n'est pas encore effective. Quelle analyse faire du lancement de ces travaux? Pour en parler, nous recevons M. le ministre Trifon Kinke Mulumba, ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication. M. le ministre Kinke, bonsoir.
Bonsoir.
Maître Albert Mbaounewa Nkieri, avocat au barreau de Kinshasa Gombe, il est expert juridique en droit des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication. Il est également auteur de l'ouvrage intitulé « Droit congolais des télécommunications, état des lieux, analyse critique et comparative ». Maître Albert Mbaounewa, bonsoir.
Bonsoir.
Ingénieur Kabeya Nkashama, ancien sous-directeur de l'OCPT, il est consultant en transmission des données et voies téléphoniques à Paris en France. Monsieur Kabeya Nkashama, bonsoir.
Bonsoir Alain.
Bienvenue.
Bonsoir à tout le monde.
Merci beaucoup. Bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Poursuite de l'implantation de la fibre optique en RDC, le Premier ministre Augustin Matata Ponyo a lancé samedi dernier à Kinshasa la deuxième phase des travaux. Exécutée par une entreprise chinoise de télécommunications, cette phase s'évalue à plus de 200 millions de dollars et consiste à introduire la fibre optique de Kinshasa à Kasumbalesa dans le Katanga, en passant par les provinces du Bandundu et les deux Kasaï. Si en RDC le processus est encore au niveau de l'installation du réseau national de la fibre optique, il faut dire que la connexion du pays au réseau mondial n'est pas encore à l'ordre du jour, en tout cas pas pour le moment. Explication Michel Kifindangoy.
C'est depuis janvier dernier que le ministre congolais de PT Intik avait annoncé la connexion de la RDC à la fibre optique sous-marine de l'océan Atlantique. Selon lui, cela pouvait se faire dans un délai de 2 mois. 2 mois après, les travaux d'installation se poursuivent. Pour l'administrateur délégué de la Société congolaise des postes et télécommunications, la première phase des travaux étant terminée, tout est fin prêt pour que la ville de Kinshasa et la province du Bas-Congo bénéficient de la connexion Internet à haut débit. Placide Mbakita.
Nous entrons dans l'exécution de la deuxième phase. Une phase qui va relier non seulement l'Est et l'Ouest de la RDC, mais qui va désenclaver la RDC. Incessamment, la République sera connectée aux fibres sous-marines de l'océan Atlantique.
L'avènement de la fibre optique va sans doute concourir au développement rapide de la RDC, a affirmé le ministre de PT Intik, Trifon Kinke Mulumba.
Il est possible d'investir dans l'ordinateur parce que l'étudiant fait des recherches. Il a face à lui non pas un mètre d'école, mais 10 000 mètres d'école et ça permet de booster l'économie, de booster l'éducation. L'Inde a atteint le statut de pays émergent grâce aux technologies de l'information et de la communication.
Toujours selon le ministre Trifon Kinke, la connexion Internet par fibre optique entraînera des améliorations sensibles, notamment dans la téléphonie mobile et les opérations de bancarisation, et cela à moindre coût.
Merci Michel Kifindangoy. La fibre optique est un fil en verre ou en plastique très fin. Dotée de la propriété de conducteur de la lumière, elle sert dans la transmission de données ou informations en grande quantité et en peu de temps. Elle offre un débit d'information nettement supérieur à celui des câbles coaxiaux, supporte un réseau large bande par lesquels peuvent transiter aussi bien la télévision, le téléphone, les données informatiques, la vidéo et bien d'autres services. D'autres détails sur la fibre optique avec vous, Daniel Tambinzoni.
Le très haut débit de la fibre optique constitue un fondement de l'économie numérique d'aujourd'hui et de demain. La RDC est connectée au réseau de la fibre optique depuis plus d'une année, mais son exploitation n'est toujours pas effective. Selon les estimations de rentabilité, elle pourrait rapporter 20 millions de dollars américains mensuels à la Société congolaise de postes et télécommunications. Outre le Togo et le Congo-Brazzaville, l'Afrique du Sud, le Mozambique, la Côte d'Ivoire, le Nigeria sont à ce jour les pays africains bénéficiaires de la fibre optique. En RDC, la fibre optique offrirait plusieurs avantages. D'abord, dans le domaine de la téléphonie et de télécommunications, elle entraînerait la baisse des prix des communications locales et internationales. Le contrôle de la fibre optique mettrait un terme à cette fraude à grande échelle sur le code 243 trafiqué et qui affiche les appels internationaux comme des appels locaux. Le réseau bancaire en bénéficierait également. Avec la fibre optique, les banques seront facilitées dans le transfert des informations. Les médias utilisant la fibre optique pourront contrôler leurs abonnés et maximiser ainsi leurs recettes.
Merci Daniel Tambinzoni. Monsieur le ministre Trifon Kinkemulumba, je rappelle que vous êtes ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication. Monsieur le ministre, vous avez annoncé la connexion de la RDC à la fibre optique sous-marine de l'océan Atlantique depuis janvier, mais vous avez fixé un délai de 2 mois, mais 2 mois après, les travaux d'installation se poursuivent. Qu'est-ce qui n'a pas marché?
Bonsoir.
Bonsoir, merci.
Effectivement, j'ai fait une annonce. J'ai fait des annonces, mais il faut savoir que dans cette aventure, le Congo n'est pas seul. Le Congo travaille avec des firmes chinoises, vous l'avez dit. Le Congo travaille avec WAX, c'est un consortium international sud-africain. Et il y a en plus son équipementier français qui s'appelle Alcatel-Lucent. Et bon, donc voilà. Et puis il y a aussi, c'est vrai, comment dirais-je, c'est que le pays doit des obligations financières. Tout ça quand vous mettez ensemble, et je pense que vous vous rappelez que dès les débuts, lors de ma prise des fonctions, au ministère, au gouvernement, j'avais subi une question orale d'un député, et vous connaissez l'aventure qui était là, qui avait prévalu, si vous voulez, dans cette affaire. L'aventure, c'est que le Congo s'est retrouvé avec une entreprise, ou plutôt un touriste, le fameux touriste indien, et il fallait rompre ses marchés, le donner à une firme qui nous a paru plutôt une entreprise sérieuse, Dorico, et il fallait faire venir l'équipementier français, il fallait faire venir WAC, bref, tout cela, il fallait que toutes ces firmes puissent attester de la qualité des travaux qui étaient faits, et il fallait faire venir des équipements de France ou d'ailleurs, les placer et mener des tests. Bref, c'est vraiment le parcours du combattant, et ça n'a pas été facile. On a fait des annonces. Aujourd'hui, le plus important, c'est que tout cela est derrière nous. Le Congo, le gouvernement est parvenu à payer ce qu'il devait, ce que la République devait à WAC. On ne doit rien, plus rien aujourd'hui. Et les équipements ont été installés dans la fameuse superlogette. La superlogette correspond à ce qui s'est fait de mieux dans le pays. Bref, la date a été fixée, la date de la remise, si vous voulez, des clés de cette superlogette au gouvernement congolais, c'est le 22 avril. Ça aurait pu se passer le 26 mars, mais le problème qui s'est posé, c'est que WAX, c'est encore son protocole interne. Il fallait que WAX se réunisse en conseil d'administration. Voilà, beaucoup de choses comme
Monsieur
ça.
Le
conseil d'administration va se tenir finalement le 19 avril. Et deux ou trois ou quatre jours après, le 22, nous allons finalement, balancer le pays dans la connectivité internationale. Voilà l'histoire.
Monsieur le ministre, il y a Joseph Vuzindi qui nous écrit de Kiwanja au Nord Kivu, qui dit: quel est le bilan de la première phase de cette opération? Vous-même, vous venez de parler du parcours du combattant. Vraisemblablement, ça donne l'impression d'une absence de chronogramme, de programme.
Oh, écoutez, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le programme WAX n'est pas géré par le gouvernement. Vous voulez, le programme WAX est géré par la SCPT. Donc, c'est la SCPT qui est, si vous C'est pas le gouvernement. Naturellement, bon, le gouvernement en répond de tout cela. Et vous dites que le chronogramme, oui, c'est la SCPD qui gère. Nous, je vous ai dit que c'est plusieurs films qui sont dans l'affaire. Aujourd'hui, ce qui est important pour nous, c'est que la date est fixée, nous y allons tout droit. Alors, la question qui m'est posée, la première phase, qu'est-ce qu'on en a fait si j'ai bien compris? Mais la première phase, là aussi, il y a des problèmes. Et on est au Congo, comme vous savez très bien. Pour que la première phase entre en fonction, il faut un climat de confiance entre qui? Entre les opérateurs qui doivent utiliser la fibre optique et l'opérateur, j'allais dire, historique, c'est-à-dire la SCPD. Cette confiance n'est pas toujours là. Le gouvernement a l'obligation de mettre tout le monde ensemble. C'est bien ce que nous sommes en train de faire. Je peux vous assurer que d'ici le 22 avril, nous aurons trouvé la formule qui permettra à ce que les opérateurs, c'est-à-dire Vodacom, Tigo, Africell, Orange, puissent être en confiance avec l'opérateur historique ou avec une structure que nous pourrions mettre en place. Voilà, c'est un peu ça, c'est ça qui a mis du retard et nous sommes désolés que, alors que la première phase est complètement terminée et que les rings métropolitains existent, merci, et que nous ne puissions pas passer dans la phase commerciale aujourd'hui de la fibre optique. Voilà.
Alors, Monsieur le Ministre, je vais vous demander une très brève réponse. La première phase de Mwanda à Kinshasa, ça fait 1500 km. La deuxième phase à Kinshasa Kasumbalesa, ça 3500 km. Avez-vous les financements? Tout est prêt pour aborder cette deuxième phase avec dans la sérénité.
Bon, d'abord, je vais pouvoir être précis. De Mwanda à Kinshasa, c'est pas tout à fait 1500 km, disons. C'est moins de 1000 km. Bon, voilà. 1000 km environ, je pense 850, mais grosso modo, on peut parler de 850, ça dépend comment par où passe les couples. Et Kinshasa, Kasumbalesa, au fond du bois, c'est environ 3000 km. Alors, la question, si les financements sont trouvés, bien sûr, les financements sont trouvés. Vous-même, vous l'avez dit, la première phase est terminée, c'est qu'il n'y a plus rien à faire en ce qui concerne la première phase. La deuxième phase, je suis sur le chemin qui à ça, je suis en train de rouler, j'essaie de mener une mission d'inspection avec
Voilà, monsieur le ministre, la qualité de votre ligne tend à se détériorer. Si c'est possible de vous déplacer un petit peu, si c'est possible, le temps de vous retrouver dans le prochain tour de table. Maître Albert Mbaouneo Ankieri, vous êtes avocat au barreau de Kinshasa Gombe, expert juridique en droit des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication. Vous avez publié l'ouvrage intitulé « Droit congolais des télécommunications, état des lieux, analyse critique et comparative ». La deuxième phase de la fibre optique en RDC vient d'être lancée. Comment vous analysez le lancement de ces travaux?
Oui, le lancement de ces travaux, c'est toujours c'est une bonne chose. Hein? Parce que comme vous le savez, en télécom, c'est ce qui est important. Il y a toujours un préalable en télécom. Ce sont les infrastructures d'abord. Okay? Donc, si le gouvernement a pris cette option, bien que cela a été pris, on a pris un peu de retard par rapport à d'autres pays qui ont lancé, disons, la libéralisation du secteur de la téléphonie mobile un peu plus en retard par rapport à nous, mais hélas, on a commencé quand même quelque chose. Eh bien, il faut d'abord commencer à expliquer aux gens, de manière assez vulgaire, c'est que c'est la fibre optique. Donc, il faut considérer que la fibre optique, c'est un support de transmission des dernières générations, qui permet de traiter, à la différence d'autres supports de transmission classiques, notamment les faisceaux hertziens, les câbles coaxiales, et les filaires et les VSAT, ça permet de traiter l'information et de transporter l'information à grande capacité et dans un délai très court à des coûts faibles. Ça, c'est une première précision, une considération qu'il faudra apporter au niveau liminaire. Donc, la RDC est en train de rentrer dans cette nouvelle génération de supports de transmission pour permettre de booster pratiquement non seulement les télécoms avec une incidence majeure sur le plan économique, sur le plan de recettes de l'État. Ça, c'est une chose qu'il faut d'abord retenir au préalable. Mais la fibre optique, il faut savoir que ça vient aujourd'hui faire une sorte de aider à ce que ça, disons le secteur se déploie davantage de manière assez qualitative. Parce que il suffit pas d'installer les infrastructures en télécommunications. Encore faut-il assurer la maintenance, la gestion. C'est à ces niveaux-là que le ministre des télécommunications et nouvelles technologies est en train de parler par rapport au manque de concertation pour l'instant entre les opérateurs privés et puis l'opérateur historique, pour ne pas les citer, la Société congolaise des postes de télécommunications. Ma crainte, c'est qu'on risque de rentrer dans les vieux débats de l'interconnexion. Parce qu'en réalité, ça qu'on est en train de chercher à faire ce qu'on appelle sur le plan légal l'interconnexion étoilée, c'est-à-dire ok, tout le monde doit se rentrer dans la structure de répartiteur qu'on appellerait la Société congolaise des postes de télécommunications. Donc les enjeux sont majeurs sur le plan juridique et sur le plan technique. Parce que aujourd'hui, on est en train de dire qu'il y a un problème de confiance, mais il y a aussi un problème de droit qui se pose. Parce que les opérateurs également aujourd'hui peuvent dire que non, nous avons les licences qui nous permettent de rentrer à l'extérieur, à l'international avec des équipements autonomes comme consacrés dans la licence. Mais la loi dit aussi qu'il faut passer par l'exploitant public qui doit au préalable avoir être doté d'un réseau de référence. Donc les débats pètent aussi bien sur le plan technique et sur le plan de droit. S'il y a aujourd'hui, on n'arrive pas à s'entendre parce que c'est pratiquement, à mon sens, les vieux débats sur l'interconnexion qui a commencé depuis 2002. Puisqu'on a confié à l'OCPT, ex-OCPT, actuellement la Société congolaise des postes de télécommunications, les rôles des répartitions, n'est-ce pas, du trafic. Je dis pas trafic au sens général, mais l'information. Parce qu'il va pas seulement répartir l'information sur la voie, il y aura les données, il y aura les images, ainsi de suite. Ça tombe à point nommé parce qu'on parle de la licence GSM, troisième génération, UMTS, qu'on appelle UMTS. Donc, et ça nécessite une grande capacité de traitement de l'information pour que finalement l'abonné, lui, ou les clients, je vais dire en termes génériques, se retrouvent avec, par exemple, l'image sur son téléphone, mais de manière assez rapide. Voilà un peu...
Alors, maître, vous dites que ça poserait non seulement un problème de confiance, comme a dit le ministre, mais également un problème de droit, mais on sait quand même que la SCTP devrait quand même avoir le monopole, mais dans l'état actuel, est-elle capable d'assumer cette charge?
Oui, moi, j'ai réfléchi en tant que juriste. C'est vrai, je suis également un praticien dans les activités de télécommunication. Et j'ai mis à la disposition des gens mes réflexions par rapport à la question, la problématique de l'interconnexion. Lorsqu'on a confié à la SCPT à l'époque les rôles de l'exploitant public, en fait, de faire l'interconnexion comme un hub, interconnexion étoilée, ça posait un problème parce que l'état dans lequel se trouvait cet opérateur historique à l'époque, je pense que sur le plan de la réflexion des sources matérielles, il n'était pas indiqué que cet opérateur joue ce rôle-là parce que quand on fait l'évaluation de l'application de la législation des télécoms depuis 2010, ça pose problème. Est-ce que l'OCPT, l'ex-OCPT, a-t-il joué ce rôle d'exploitant public? C'est le même débat en fait. La fibre optique permettait également de faire la répartition des canaux. Chaque opérateur viendra et fera ce qu'on appelle en ingénierie la liaison de capacité. Chaque opérateur dira, bon, moi je vais louer telle capacité en fibre optique et tu vas me charrier les trafics de X volume. Mais que va-t-il se passer par après? Pourquoi l'OCPT n'a pas rempli ses rôles pendant 10 ans? Entre autres, non seulement la question de droit, mais il y a la question également sur le plan technique et sur le plan de la performance, sur le plan technique, sur le plan de l'informatique par exemple. Est-ce que la même question ne va pas se poser? De l'interconnexion simple. C'est pratiquement le même débat qui revient, qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Je pense qu'il faut entourer également un cadre juridique approprié par rapport à la question, pour éviter qu'on fasse du surplace parce qu'il y a de l'argent qui est sorti.
Alors maître, nous allons prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Mbandaka, l'Équateur.
Chef de travaux Jean-Bernard Mideko, ici à Mbandaka, province de l'Équateur. Il ne faut pas que cela soit seulement un effet d'annonce et après c'est fini. À suivre de près ces dossiers, nous avons l'impression que l'installation de la fibre optique en RDC risque de coûter 10 fois de plus que son coût normal.
Réaction maître.
Oui, je ne suis pas rentré dans les chiffres, mais c'est ce qui s'est dit. C'est parce qu'en fait, si au départ déjà les financements posent problème, lorsqu'on surévalue, par exemple, on fait la surfacturation, il y aura un coût par rapport à ça, parce que la personne qui aurait fait la surfacturation va surévaluer également les coûts, et ça va avoir des incidences sur les opérateurs privés qui doivent utiliser la fibre optique, parce que disons la structure qui aura dépensé de l'argent cherchera à rentrer dans ses frais. Donc si déjà dès le départ, il y a ces problèmes de méfiance par rapport au coût réel, il y aura des incidences sur le plan, tu sais. Et puis le problème en télécom, ce n'est pas seulement le coût, c'est la qualité également du travail. Parce que on va charrier les trafics internationaux pour les terminer, n'est-ce pas, chez les opérateurs de la téléphonie mobile. Bon, je ne vais pas rentrer, je prends seulement l'aspect téléphonie mobile, on va rentrer chez les fournisseurs d'accès, sur l'Internet et consorts. C'est pas seulement l'argent. Parce qu'en téléphone, il y a la qualité. Et je pense qu'il faut comprendre une chose également, qu'en télécommunication, on ne s'est fait pas la guerre sur le plan technique. On se concerte. On n'a pas imposé aux opérateurs privés parce qu'on ne s'en sortira pas. On fait la guerre sur le plan commercial, mais on se concerte sur le plan technique. Merci. Parce que c'est la technique qui est plus importante que l'argent dans un premier temps en télécommunication.
Merci, Maître Albert Mbaounewa. Ingénieur Kabeya Nkachama, vous êtes ancien sous-directeur de l'OCPT, vous êtes consultant en transmission des données et voix téléphoniques à Paris en France. Comment vous analysez le lancement de la deuxième phase de l'implantation de la fibre optique en RDC?
Merci Alain de m'accorder la parole. Bonsoir Monsieur le Ministre, bonsoir Maître.
Bonsoir.
D'abord, j'ai l'impression qu'on est en train de mélanger un peu le tout. Il y a la partie exploitation et la partie déploiement du projet. Donc, partons d'abord pas au niveau de l'objet. J'ai bien suivi Monsieur le Ministre tout à l'heure. Je voudrais d'abord situer au niveau de l'organisation de la gestion projet. L'État congolais, c'est tout est à son honneur d'avoir lancé ce projet de déploiement de fibre optique pour enfin connecter notre pays au réseau mondial par le haut débit. Donc l'État congolais est le maître d'ouvrage de ce projet, représenté par le ministre de Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies. La SPT est aujourd'hui le maître d'œuvre de ce projet-là, qui doit assurer la partie ingénierie du projet. Donc la question qu'on doit se poser aujourd'hui, parce que le problème que nous avons d'abord, c'est l'interconnexion du réseau, parce que la partie Mwanda-Kinshasa est déjà terminée. Nous avons un retard au niveau de l'interconnexion au réseau mondial. J'ai suivi les explications du ministre, mais tout ça était prévisible. On pouvait déjà, lors de la mise en place du projet, je n'ai pas tous les documents en face de moi, je ne sais pas comment est-ce que le business plan a été élaboré, quelles sont les échéances qui ont été élaborées pour pouvoir programmer les différentes étapes. Le retard qu'a connu le Congo pour l'interconnexion au réseau mondial, cela, c'est une part de responsabilité de la gestion qui a été mauvaise dès le départ, dans le sens que pendant que le bateau Alcatel était encore au niveau du Gabon ou des autres pays, on pouvait déjà avoir terminé le local technique à Mwanda, installer les équipements et pendant ce temps déployer le backbone de façon à ce que dès que le bateau arrive à Mwanda, que nous soyons interconnectés. Moi, la question que je me pose aujourd'hui, là, c'est le réseau de transport qui est en train d'être déployé. Qu'est-ce qui est prévu au niveau local? Parce qu'on peut avoir le flux qui vient sous forme de package. Si cela ne peut pas arriver à la destination, à quoi servirait le réseau de transport dont on aurait investi? Donc, je tiens à rappeler d'abord au ministre de PDT qui connaît très bien, il doit se rappeler dans les dossiers à son cabinet, le projet Kinshasa Lubumbashi des années 70 en faisceau hertzien à visibilité directe. Ce projet n'a vécu que la période d'inauguration, qui n'a jamais été rentabilisé parce que on n'avait pas prévu le déploiement du réseau local, on n'avait pas prévu le problème énergétique. Au jour d'aujourd'hui, c'est très bien que le Premier ministre lance le réseau de Kinshasa à façon balèze. Qu'est-ce qui est prévu pour pouvoir servir les régions que ce câble va traverser? Ça, ce sont les interrogations que je me pose, que si le ministre pouvait nous éclairer, mais je pense que c'est plutôt au maître d'œuvre qui doit avoir la compétence technique, donc la SCPT, et pour nous aider de faire la firme chinoise,
ingénieur,
qui pouvait être en mesure de nous donner les informations sur l'ingénierie réseau, c'est-à-dire le réseau de transport et le réseau de distribution. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui? C'est la question que je me pose, moi.
Ingénieur Kabeya, il y a Julien Serge Koukou qui Matoussa, qui nous écrit de Montréal au Canada, qui dit « Comment pouvons-nous croire toutes ces annonces si la RDC a été incapable de construire une station d'atterrage à Moanda pour son interconnexion avec le câble sous-marin? Devons-nous attendre que le dit câble arrive à Kasumbalesa avant que les usagers de Kinshasa puissent profiter de cette technologie ?» Il va un peu dans le même sens que vous en parlant du réseau local, mais avez-vous également l'impression, ingénieur Kabeya, que la planification est bien faite pour qu'on arrive à destination?
Malheureusement, non. Je crois que lors du débat de l'année passée, où je suis intervenu brièvement avec le ministre, j'avais rappelé le problème de gestion qui persiste à l'époque de l'ECPT, et j'ai l'impression que ce problème persiste aujourd'hui au niveau de la planification du projet. La réussite d'un projet passe par d'abord l'organisation de l'équipe projet et par la planification des actions avec des jalons bien déterminés, sachant que ces jalons doivent être respectés avec des délais déterminés de respect. Sans cela, le projet nous risquons d'avoir un éléphant blanc qui ne servira à rien, qui va encore alourdir la dette publique du Congo, comme c'est le cas avec le réseau FCRC à visibilité directe Kinshasa-Lubumbashi et Kinshasa-Matadi, en transhorizon. On a eu beaucoup de projets comme ça. Donc, il faut avoir évoqué le problème de centraux téléphoniques qu'on n'a jamais installé. Ces centraux ont couru dans les caisses. J'ai effectué les missions en province. J'avais fait un rapport à mon retour à Kinshasa, donc c'était dans les années 82. J'ai fait le rapport au niveau des responsables. Ces centraux n'avaient jamais été installés. Tout simplement parce que le ministère du plan qui gérait ce projet par le financement de la Banque mondiale, qui avait lancé l'appel d'offres pour la construction des locaux techniques, les locaux n'ont jamais été construits et les personnes qui avaient bénéficié du marché n'ont jamais été punies. Donc, on a l'impression qu'on retombe dans les mêmes erreurs que le passé.
Merci.
Donc, avant de lancer ce projet, j'estime que les amis de la SCPT devraient avoir fait l'étude de l'existant pour éviter effectivement de commettre les mêmes erreurs que les années passées.
Merci, ingénieur Kabeya Nkashama. Monsieur le ministre Tréfon Kinké, est-ce que vous nous suivez? Monsieur le ministre, voilà, décidément, nous avons perdu le ministre Tréfon Kinké Moulumba, ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication. La réalisation va tenter de le retrouver. Maître Albert Mbaounewa Ankeri, vous venez de suivre l'ingénieur Nkashama, Kabeya Nkashama, qui pose encore les problèmes de gestion, problèmes de planification et qui pense que les erreurs passées, on n'en a pas tiré les leçons et que ça risque de se répéter.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec lui parce que d'abord je me pose la question de savoir pourquoi, pour une question si importante, on n'a pas fait un appel d'offres. C'est la première question que je me pose. J'ai également sous mes yeux ici, disons, les implications fiscales du secteur des télécommunications que j'ai eues à la source. Aujourd'hui, quand tu prends les recettes propres, quand vous prenez aujourd'hui les recettes propres entre les mines et les télécoms, mais depuis les prévisions et la réalisation de l'année passée et les prévisions de cette année, il y a une grande différence entre les mines et les télécoms. Les télécoms sont vraiment en avance. C'est un secteur très porteur parce que les mines sont tarissables, mais les zones ne les sont pas. Alors, je me demande si il y a, on continue vraiment, on veut chercher à mettre du sérieux dans cette affaire. Parce que tout est parti pratiquement de ce que l'ingénieur a dit. Il y a eu un problème de planification aujourd'hui. Et je me dis, si on avait par exemple associé les opérateurs privés qui sont très routiniers d'ailleurs en matière d'infrastructure, je crois qu'ils auraient dû donner quand même certains points de vue qui sont plus importants. Au lieu qu'on se rentre maintenant dans la question, et le ministre l'a dit, c'est déjà un problème. Et quand ça sort de l'autorité du gouvernement, c'est qu'effectivement il y a un problème entre les opérateurs privés et la SCPT. Et ça, ça peut effectivement créer la congestion dans la gestion. Parce que comme je l'ai dit, il suffit pas d'installer, mais il faut faire la maintenance et au niveau de l'exploitation. Parce qu'en fait, les télécommunications constituent un secteur, un service public. Il faut qu'on y prenne, on prenne beaucoup de considérations par rapport à ce secteur qui est porteur, qui peut rapporter beaucoup d'argent à l'État par rapport aux mines. Les chiffres sont clairs. Je pense que je suis tout à fait d'accord avec l'ingénieur, parce que là, apparemment, je crois qu'il y a eu assez de tâtonnements par rapport à la planification. Et si les gens, tout le monde était d'accord, des concertations étaient faites dès le départ, je pense pas qu'on serait dans des situations de se regarder en chien de faïence, apparemment. Donc, je suis tout à fait d'accord avec l'ingénieur. On risque de rentrer dans la même, les mêmes problèmes qu'on a dans tous les secteurs très rentables, mais on ne prend pas tellement au sérieux les choses dès le départ.
Monsieur le ministre Trifon Akinke Mulumba, est-ce que vous nous suivez? Vous êtes en ligne?
Mais écoutez, j'étais coupé, je vous avais perdu, vous m'avez perdu.
Voilà.
Mais là, ça va, le contact est rétabli.
Voilà, c'est pourquoi il faudrait que la fibre optique vienne vite pour régler ce genre de problème. Monsieur le ministre, nous allons...
Je suis en voiture, je suis en train de rouler, donc ça n'a rien à voir avec la fibre optique.
Je vous en prie. Nous allons prendre pour vous, monsieur le ministre, cette réaction qui nous vient de Johannesburg en Afrique du Sud.
Martin Chibangu, j'habite à Johannesburg, en Afrique du Sud. Ma question est adressée au ministre King. La fibre optique est un transporteur de données. Comme tout transport a un prix calculé à une capacité transportée et la distance parcourue. En exemple, 1 giga sur 100 km coûterait moins cher que 1 giga sur 10 km. Dans notre cas, partir de Kinshasa à Lubumbashi aura deux prix différents. Donc, cela veut dire que ce transport ira en défaveur de l'Ouchois. Si le prix restera le même, cela signifierait on parle d'un prix moyen, donc soit le consommateur chinois paiera plus cher que celui de Kinshasa. Alors, ma question est de savoir, pourquoi voulez-vous sacrifier le consommateur chinois en lui laissant payer la différence? Ou encore, pourquoi voulez-vous pénaliser le consommateur louchois en lui surfacturant au lieu de lui donner une faible facture à sa proximité? Ma deuxième question est de savoir, il est connu que le coût d'installation mètre de fibre avoisine dans les 10 dollars. Coût. En suivant le ministre Kinke sur la distance de 3200 qui partirait de Kinshasa à Kasumbalesa, le coût ira à 241 millions, soit 75 dollars le mètre. 7 fois et demi ou une addition de 65 dollars le mètre. Je voudrais avoir un commentaire sur ça et avoir un éclaircissement par rapport à ce que j'ai entendu dans les médias lors de l'inauguration de la fibre optique.
Réaction, monsieur le ministre.
Mais écoutez, je remercie ce compatriote louchois. Je pense qu'on ne va pas aller dans la guerre des chiffres aujourd'hui. Je ne sais pas à quoi il se réfère. Tout ce que je peux vous dire, c'est que quand je suis arrivé au ministère il y a 10 mois environ, le contrat avait été signé, j'assume, et si c'était devant le Parlement, naturellement j'ai demandé à aller vérifier tous ces chiffres qu'il avance. Nous sommes dans une émission de radio, tout ce qui m'intéresse moi, c'est de rassurer les compatriotes qui nous écoutent. Quand j'ai été coupé tout à l'heure avec vous, j'ai quand même entendu certaines affirmations. Tout ce que je peux vous dire en tant que représentant du gouvernement, c'est que le peuple congolais doit absolument avoir confiance en ce projet. C'est un projet immense, c'est un projet historique qui va permettre de basculer le pays dans la connectivité, dans la modernité. Je dois redire ceci, le point d'atterrage de Moanda est terminé, il est l'un des meilleurs au monde. placé par l'équipementier officiel de WAPS, c'est-à-dire Alcatel Lucent. Les tests ont été, faits, ils sont concluants. Ce sont trois choses qui sont absolument importantes qu'il faut retenir. J'ai entendu quelqu'un parler quelqu'un que je respecte, parce que c'est certainement un expert, un technicien, parler d'éléphant blanc. La fibre optique ne peut pas être un éléphant blanc, c'est tout à fait impossible. Notre pays, depuis des années, est aujourd'hui le trou noir de partout, de tous les pays qui nous environnent, arrivent de points d'ancrage des fibres optiques. Et tous ces pays-là attendent que le Congo bascule dans la fibre optique pour que la communication dans le continent, pour que la communication au monde puisse marcher. Merci. Donc ça ne peut pas, la fibre optique ne peut en aucune façon être un éléphant blanc. En Merci. Plus de ça, les demandes sont énormes. Les opérateurs attendent tous la fibre optique. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, les opérateurs, on l'a dit, je crois que je l'ai entendu, les opérateurs passent par le satellite qui coûte énormément cher.
Merci, monsieur.
Et qui n'offre pas la garantie en termes de qualité, ni de bas coût, je l'ai dit, tout, ni en termes de sécurité.
Merci,
Donc, tout le monde attend la fibre optique. Dire que c'est un éléphant blanc, ça, je peux vous assurer que ça ne peut jamais être un éléphant blanc.
Merci, monsieur le ministre. À Lubumbashi, les agents et cadres de la Société congolaise de postes et télécommunications SCPT se plaignent. Ils indiquent que depuis plus d'une semaine, une entreprise sud-africaine utilise les tracés de la SCPT pour y placer la fibre optique, pendant que plusieurs containers de matériel destiné à cette fin sont déjà arrivés à Lubumbashi. Les travaux sont exécutés par des partenaires chinois. La délégation syndicale en appelle à l'implication des autorités nationales pour que cette entreprise sud-africaine cesse ses travaux, car cela met en péril l'avenir de leur société. On écoute à ce sujet Fundi Kipuya, délégué provincial, au micro de Jean Gandou.
Nous avons constaté avec beaucoup d'amertume la venue d'une entreprise privée qui fait la pose de la fibre optique ici à Lubumbashi, alors que le problème de la pose de la fibre optique a été divisé en plusieurs phases. La deuxième phase, c'est Kinshasa, Lubumbashi, Kasumbalesa. Le matériel, nous avions déjà réceptionné une soixantaine de conteneurs. Les travaux ont déjà commencé. Les Chinois sont à pied d'œuvre sur les tronçons Kasumbalesa, Lubumbashi, Likasi, Kolwezi. Mais on se demande comment nous pouvons, nous en sortir avec cette entreprise privée qui vient poser la fibre optique sur le même tracé que nous avions arrangé pour la nôtre. C'est pourquoi nous demandons aux autorités nationales de faire quelque chose pour que ce projet ne puisse pas être mis en péril. Les agents sont vraiment indignés, ils sont très inquiets, ils veulent que l'État congolais prenne ses responsabilités.
Une source proche de la direction provinciale de la SCPT reconnaît les faits et indique que la plainte des agents est fondée. Ingénieur Kabian Kachama, cela c'est une illustration encore de ce que les problèmes de gestion commencent déjà à se poser encore.
Oui, je tiens d'abord à réagir tout à l'heure au propos du ministre. Quand j'ai parlé de l'éléphant blanc, ce n'est pas mon souhait de voir ce projet devenir demain un éléphant blanc. Gouverner, c'est prévoir. L'expérience du passé peut nous mettre un peu dans les réserves. Donc le ministre ne peut pas mettre en doute ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'axe 1. Ce, l'axe 1 est là, on n'a jamais été rentabilisé, donc c'est un éléphant blanc. Mon souhait aujourd'hui, le souhait de tous les Congolais, c'est de voir ce projet, parce que c'est un levier important pour le développement économique de notre pays, le développement économique et social de notre pays. Donc, ce projet va créer beaucoup d'emplois, les emplois directs et indirects. Donc, je tiens à rassurer monsieur le ministre que mon souci, c'est de faire en sorte que ce projet ne soit pas un éléphant blanc. Mais pour que cela ne soit pas un éléphant blanc, il va falloir que la gestion de ce projet soit transparente. Je vais citer monsieur le ministre, il y a toujours existé à l'époque un conflit de compétences entre le conseil d'administration de l'opérateur historique est une mission de tutelle. Donc il va falloir que la responsabilité soit clarifiée pour que l'autorité de tutelle joue le rôle de maître d'ouvrage devant demander les comptes au maître d'œuvre qui est la SPT. Donc ce que les amis de Lubumbashi sont en train d'évoquer, c'est le cas, c'est un exemple éloquent de faire voir que c'est une mauvaise de gestion. Il y a parfois la multiplication des actions. L'État congolais semble ne pas faire souvent confiance à ses propres compétences, aux compétences locales. Ça, ce sont des choses que nous avons vécues depuis longtemps. Donc, on préfère faire venir les personnes de l'extérieur que d'utiliser les ressources locales. Quand j'étais bien formé, je tiens à rappeler que l'OCPT avait le meilleur cadre bien formé qui se trouve aujourd'hui dans les sociétés privées.
Merci.
Donc, le problème qui se pose, c'est le problème de la gestion des ressources humaines, le problème de la gestion des infrastructures.
Merci.
Ce qu'il faut faire, c'est que ce projet soit mené à terme, et pour que ce soit mené à terme, il faut une organisation et un respect des jalons, un respect des délais d'exécution du projet.
Merci, ingénieur Kabéan Kachama. Je rappelle qu'il nous reste moins de 4 minutes pour terminer cette émission. Monsieur le ministre Kinké, il faut déjà conclure. La deuxième phase prendra combien de temps, monsieur le ministre?
Je peux réagir, cher monsieur, à ce que disait notre compatriote du Katanga en deux mots. Je comprends, moi, en tant que ministre des tutelles, l'inquiétude des agents de la SPT. Les agents de la SPT, avec l'arrivée de tous ces opérateurs mobiles privés, pensent que leur place est de plus en plus prise. Et je peux comprendre qu'ils considèrent la fibre comme une bouée de sauvetage. Je pense qu'ils ont raison. Mais ce qu'ils doivent savoir, c'est que nous avons un pays immense. Et nous, j'ai pour charge de conduire l'implantation de la fibre sur plus de 40 000 kilomètres. Il faut de la ressource pour ça.
Alors, monsieur le ministre, ça prendra combien de temps, la deuxième phase?
Bon, écoutez, la deuxième phase, je suis en train de terminer ma visite d'inspection en ce qui concerne la deuxième phase, c'est-à-dire Kinshasa-Kasumba-Lessa. Si l'entreprise chinoise CITCC travaille correctement, c'est-à-dire passe de contrat avec des ONG dans les villages, dans les territoires, nous pourrions peut-être d'ici deux ans et demi, arriver à Kasumba-Lessa par Sakania.
Merci,
donc deux ans et demi. Et puis il va y avoir la troisième phase. Cette troisième phase, nous sommes en train, je l'ai dit samedi dernier, de rechercher les financements. Cette troisième phase va nous permettre d'amener la fibre dans les provinces de l'Équateur et la province orientale. Et là, c'est des fonds importants aussi qui sont recherchés.
Merci, monsieur le ministre. Maître Albert Mbaonewa, en guise de conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir pour vous?
Oui, en guise de conclusion, je crois qu'il faut... Il faut lancer la sonnette d'alarme, hein, parce que je vois un conflit qui est profil à l'horizon entre les opérateurs privés et puis l'opérateur historique. Et ça peut créer un goulot d'étranglement immense par rapport à la question, parce qu'il y a l'argent qui est déjà sorti. Il faut absolument qu'il y ait un cadre juridique approprié par rapport à la question, revisiter s'il faut les textes et amener à ce que les uns et les autres se retrouvent. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui au niveau du télécom et mettre de côté, par exemple, les opérateurs privés qui ont déjà investi de manière importante dans les infrastructures. Il faut une concertation pour que finalement la situation, la question soit intéressante pour tous les acteurs du secteur.
Ingénieur,
je vous remercie.
Ingénieur KBA, juste un mot pour terminer. Juste un mot.
Juste un mot, il faut que le déploiement du backbone soit suivi par le déploiement du réseau local.
Merci.
Je ne suis pas d'accord avec le maître quand il dit qu'il y avait un conflit avec les opérateurs privés.
Merci, merci ingénieur KBA. C'est par vous que nous terminons cette émission. Restez branchés sur Radio Capi. Au revoir.